Bonjour à tous. Donc, comme vous voyez, c'est la suite d'il y a 2 semaines, je crois. Si vous avez raté, c'est pas grave. Vous pourrez suivre quand même, je pense. Je vais parler d'apocalyptique, d'apocalypse. Il y aura 2 moments. Un moment un petit peu où je vais présenter un petit peu l'apocalyptique. Et ensuite, vous proposer une clé de lecture. Et je vous dis tout de suite que vous pouvez être dans l'embarras parce que je vous proposerai deux voies possibles de lecture des textes et puis je laisserai chacun à sa responsabilité devant les textes sans forcément mettre en valeur ma préférence personnelle. Donc voilà, j'entends que ça peut être déroutant en même temps, mais je vais assumer de vous dérouter un peu si vous voulez bien, si vous ne m'en voulez pas trop. Je lis avec vous le début de l'Apocalypse, j'oscillerai entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre en fait l'Apocalypse et Ésaïe. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ou ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux, heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Voici donc l'Apocalypse. Apocalypse, ça ne se voit pas dans cette traduction, mais c'est le premier mot du texte que j'ai lu, que la traduction donc a rendu par révélation. En fait, Apocalypse, c'est un mot français, mais c'est un mot grec à l'origine qu'on a retranscrit en français. On a pris les lettres grecques, on les a mises en français, et ça donne littéralement Apocalypse. Donc, on change juste l'alphabet, et le sens du mot, c'est révélation. Dévoilement. Donc voici l'Apocalypse, en fait la seule Apocalypse qui est contenue dans le Nouveau Testament. Mais vous le savez peut-être, il existe en fait un bon nombre d'autres Apocalypses, notamment dans le judaïsme de la même époque, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc si vous trouvez parfois l'Apocalypse d'Abraham, l'Apocalypse d'Élie, si on vous parle de ces choses, bien, c'est normal. Enfin, ne soyez pas déroutés. En même temps, je dis ça et puis je vous dis que je me suis préparé à vous proposer à dire textes qui sont en même temps déroutants. Comme la prophétie, plus que la prophétie à proprement parler, ils ont suscité tout au long de l'histoire à la fois de la fascination et du mépris, et de la perplexité, et on le voit dans cet extrait, en fait ça a tout l'air, il y a des moments où ça ressemble à une lettre, grâce et paix à vous, vous pensez aux lettres de Paul, apôtre de Jésus-Christ, grâce et paix, voilà, donc ça ressemble à une lettre, c'est aussi une révélation, donc c'est le premier mot du texte, une apocalypse, c'est aussi une prophétie, et pour le confirmer, et c'est pour ça que j'associe Apocalypse et prophétie, l'Apocalypse c'est un petit peu un sous-genre de la prophétie, à la fin du livre, donc ça c'est les premiers mots, à la fin du livre on retrouve le mot prophétie à plusieurs reprises, je lis, Apocalypse 22, « Moi je l'atteste à quiconque entend les paroles de cette prophétie, de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Donc avec les apocalypses bibliques, alors dans plusieurs livres prophétiques, il y a quelques passages apocalyptiques. Pas toujours, mais c'est là qu'on les trouvera le plus communément. Donc avec les apocalypses bibliques, nous restons dans le domaine de la prophétie, mais des prophéties avec un type un peu particulier. Et je vais essayer de les faire ressortir. Et je reviens au prophète Ésaïe, dont j'avais pris des extraits il y a 2 semaines, et je crois qu'il illustre en fait très bien. Ciel écoute, terre prête l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. Jusque-là, voilà, c'est l'ouverture. Et puis, si on continue la lecture, on passe au chapitre 24, je reviendrai sur un chapitre précédent. On a en fait au chapitre 24 une des premières apocalypses dont l'histoire nous a gardé la trace. Dieu y décrit la ruine à venir de Jérusalem, je crois. Je ne sais pas vérifier, mais bon. La ruine à venir de Jérusalem désobéissante, il me semble. Je lis. Le Seigneur vide la terre et la dépeuple. Il en bouleverse la surface. Il en disperse les habitants. Il en est du prêtre comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Et puis je saute quelques versets. Verset 18. Les fondements de la terre tremblent. La terre se fissure. La terre craque. La terre vacille. La terre titube comme titube l'ivrogne. Elle est branlante comme une cabane. Sa transgression pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce jour-là, le Seigneur fera rendre des comptes en haut à l'armée d'en haut et sur la terre au roi de la terre. On les réunira comme des prisonniers dans un cachot. Ils seront enfermés dans une forteresse et après un grand nombre de jours, ils rendront des comptes. La lune rougit, le soleil a honte. Car le Seigneur des armées, Adonai, Yahweh, est roi au mont Sion, à Jérusalem, et la gloire est en face de ses anciens. Et ici, je crois qu'on a tous les traits, en fait, de ce qui a amené à inventer le genre apocalypse, parce que Ésaïe s'est pas dit « je vais écrire une apocalypse », il y en a d'autres qu'on a écrit avant moi, c'est mon tour, c'est pas ça, c'est nous qui, après coup, classons un petit peu les genres, on dit « voilà, là, il y a des paraboles, là, il y a... » On a ici dans ce passage tous les traits des apocalypses, des traits qu'on retrouve dans l'apocalypse de Jean. On a apparemment des annonces qui ne se limitent pas à Israël, les questions de vider la terre, bon. Mais apparemment le monde dans son ensemble, les fondations de la terre tremblent, les rois de la terre. On a apparemment des bouleversements cosmiques, si on le prend voilà, au premier degré en tout cas. La lune rougit, ça doit se voir. Non, je l'avais là déjà, pardon. Je vais aller un peu vite. Et en fait, et là, donc, voilà, on trouve ça au chapitre 24, et je reviens quelques chapitres avant pour vous dire qu'on a déjà ça, en fait, au chapitre 13, et là, je vais m'y attarder davantage, avec ce que le prophète appelle le jour du Seigneur. Et je m'attarde à ce chapitre parce qu'il va nous donner aussi une clé de lecture des apocalypses. Donc chapitre 13. Le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de fureur et de colère ardente. Il réduira la terre en un lieu dévasté, il en fera disparaître les pécheurs, car les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller la lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. Et la lune ne fera plus luire sa lumière. Je ferai rendre des comptes au monde pour le mal et aux gens méchants pour leurs fautes. Je ferai cesser l'orgueil des gens arrogants. Je rabaisserai le triomphe des brutes. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur sa base par la fureur du Seigneur des armées. Par le jour de sa colère ardente. On retrouve ici ce qu'on a au chapitre 24, des perspectives plutôt cosmiques, semblant affecter le monde dans son entier. Et puis peut-être aussi, c'est un autre trait des livres apocalyptiques, c'est que là où les livres prophétiques traditionnels semblent s'exprimer de manière conditionnelle, en disant « voilà ce qui va arriver, cela dit, repentez-vous, c'est encore possible ». Ça dépend aussi de ce que vous allez faire de cette parole. Ici, c'est davantage « voici ce qui va se passer, hein, le jour du Seigneur arrive ». La dimension prédictive aussi, j'avais dit que la prophétie avait plusieurs traits, mais pas que de la prédiction, mais avec l'Apocalypse, la dimension prédictive est plus au centre que dans la prophétie. Je reviens à l'Apocalypse de Jean. Le temps est proche, et puis là on a lu, le jour du Seigneur arrive. Donc l'Apocalypse est un peu comme une espèce, je ne sais pas comment dire, d'excroissance de la prophétie, on va dire autrement, une prophétie XXL, à une échelle XXL, ou XXXXXL, je ne sais pas comment, je ne suis pas très doué au niveau des vêtements. Voilà pour un petit peu dire à quoi on a affaire. Maintenant, je m'attarde à comment comprendre de tels textes. Je ne sais pas quelle est la diapo suivante. Oui, c'est bien celle que j'avais oublié de noter. Aujourd'hui, le plus couramment parmi nous, la façon la plus spontanée, c'est de prendre ce que nous avons dit à la lettre. Les étoiles du ciel et les constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, la lune ne fera plus luire sa lumière. Nous l'entendons spontanément, comme au premier degré, hein, si je puis dire, tout simplement, sans se poser de questions. C'est la lecture spontanée, naturelle. Eh bien, ça veut dire, pensons-nous, qu'on va avoir affaire à des bouleversements cosmiques, célestes, qui seront observables dans le ciel. Donc, devant des passages de l'Ancien Testament, comme celui-ci, devant des passages d'autres livres de l'Ancien Testament, Daniel, ou bien le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est souvent ce qu'on imagine. Et en conséquence, donc, je fais un deuxième pas, parce qu'on se dit que de tels bouleversements, ils n'ont pas encore eu lieu à notre connaissance dans l'histoire, eh bien, on les attend pour plus tard, on les attend pour bientôt. Car le temps est proche, et déjà on se dit que si Jean disait ça déjà à son époque, donc il y a quand même plus de 1900 ans, hein, eh bien si c'était proche à son époque, a fortiori aujourd'hui ça, c'est très 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 proche. Donc première façon de lire ces textes, la façon la plus commune, c'est une lecture tout à fait littérale de ces textes. Et parfois on pourra même être convaincu que c'est la seule façon de prendre ces passages, la seule manière légitime de lire la Bible. Et du coup aussi, alors ce serait une étape suivante, pas nécessaire, mais certains du coup vont faire des rapprochements, vont chercher à lire l'Apocalypse et puis l'actualité. Et l'actualité, eh bien, on est en plein dans des choses qui sont bouleversantes au niveau mondial. Donc du coup, on peut être tenté du coup de faire des rapprochements. Pas nécessairement, mais... Alors je ne sais pas quelle est ma diapo, donc je vais vérifier. Oui, donc c'est celle que j'ai oubliée. Voilà. La seule chose que je voudrais dire... c'est que nous sommes en fait, donc, lecture la plus spontanée, lecture littérale, bouleversement cosmique et autres. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, nous sommes là, dans cette façon de lire, à un point de débat entre croyants évangéliques, entre croyants qui sont soumis à l'autorité de l'Écriture. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas aux évangéliques. Donc, c'est la lecture la plus spontanée, la lecture la plus commune. Ce n'est pas la seule. Et je veux dire qu'il ne va pas de soi qu'il faille lire littéralement ces textes ou tous ces textes. Et avant de l'illustrer dans le texte d'Ésaïe, je voudrais juste essayer de le faire sentir par un exemple contemporain, parce qu'on habituellement, le plus souvent, notre langage, c'est un langage exact. On écrit les choses factuellement telles qu'elles se sont passées. Mais pas que. Il y a aussi dans notre culture des traces de moments où on s'exprime d'une manière qui n'est pas... où on ne s'attend pas à ce que les personnes prennent littéralement. Et je pense tout simplement à la poésie. Et les prophètes s'expriment aussi de manière poétique. Et je voudrais juste lire le début d'un texte de Paul Verlaine. Voilà. juste le début. Les sanglots longs des violons de l'automne. Alors si vous avez un peu de familiarité avec la poésie, vous comprenez que l'automne ne joue pas de violon. C'est juste la façon poétique de parler. Et je dirais qu'en fait, si la première façon de lire les textes prophétiques est littérale, la deuxième façon, elle est plus poétique, elle consiste à penser que les prophéties pourraient être lues comme ça. Et il me semble qu'en tout cas, Ésaïe 13 le met très bien en valeur. Parce que là, on a donc eu des choses, le jour du Seigneur arrive, les étoiles du ciel, leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Voilà, mais sauf que, enfin, quand on continue la lecture d'Ésaïe 13, on voit que Ésaïe redit ce qu'il vient de dire, mais il le redit autrement. Donc finalement, il nous donne une clé de lecture de ce qu'il vient de dire. Et je voudrais, pour le faire apparaître, donc continuer la lecture à partir du verset 14. Alors là, cette partie ne sera, je m'y attarderai moins, mais je la dis pour vous faire voir ce que j'ai lu le texte en entier. Donc, alors, comme une gazelle effarouchée, comme le petit bétail qui n'a personne pour le rassembler, chacun s'en retournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront transpercés, tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront jetés à terre sous leurs yeux, leurs maisons seront mises à sac et leurs femmes violées. Mais c'est surtout cette section à laquelle je voudrais nous arrêter. Car je vais susciter les Mèdes, c'est un autre peuple, hein, qui ne pense pas à l'argent et à qui l'or ne plaît pas. Leurs arcs jetteront les jeunes gens à terre. Ils seront sans compassion pour le fruit du ventre maternel. Leur œil sera sans pitié pour les fils. Il en sera pour Babylone, c'est une prophétie sur Babylone, il en sera pour Babylone le plus beau des royaumes, la splendeur orgueilleuse des Chaldéens, comme lors de la destruction divine de Sodome et de Gomorre. Elle ne sera plus jamais habitée. On n'y demeurera plus de génération en génération. Le bédouin n'y dressera pas sa tente. Les bergers n'y feront pas coucher leurs bêtes. Ce sont les habitants du désert qui s'y coucheront. Les hiboux rempliront ces maisons. Les autruches y demeureront et les boucs y bondiront. Les hyènes entonneront leurs complaintes dans ces palais et les chacals dans ces demeures luxueuses. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongent pas. Autrement dit, lecture possible, ce qui peut apparaître à première lecture comme une espèce d'apocalypse hollywoodienne, si je puis dire, le jour du Seigneur, donc là je mets le début et la fin du texte, la terre réduite en un lieu dévasté, les étoiles, les constellations qui ne font plus briller leur lumière. Dans ce passage-là, il me semble que ce n'est pas à comprendre comme la disparition physique des étoiles. C'est une façon de dire, peut-être poétique, que l'Empire de Babylone va disparaître. Et il a bel et bien disparu, d'ailleurs, puisqu'on a retrouvé les ruines, je ne sais plus, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Je crois que c'est au musée en Allemagne qu'on peut voir la porte d'Ishtar. Enfin, il y a une porte monumentale qui est très jeune, enfin, très colorée. Peu importe. Donc c'est dire qu'un peuple voisin, les Mèdes, va faire disparaître Babylone. Donc une façon de parler de bouleversement politique, si je prends un langage contemporain, de bouleversement politique important. C'est ça, pour Babylone en tout cas, le jour de l'Éternel. Avec l'invasion des Mèdes, pour Babylone, c'est la fin. Je me dis, je ne sais pas pour vous, mais je me dis que si j'avais dû décrire une invasion étrangère, je n'aurais probablement pas décrit les choses comme ça, en utilisant les mots de la première partie du texte. Dans Ésaïe 13, en tout cas, il me semble qu'on doit conclure qu'Ésaïe n'écrit pas les choses comme je les aurais écrites, comme nous les aurions peut-être écrites. Il ne raconte pas les choses comme nous le ferions, peut-être nous. Et je trouve ce texte intéressant, parce que bon, il y aurait d'autres exemples, mais c'est un des textes où on nous voit les choses qui nous sont dites de deux façons. Et la deuxième nous aide à comprendre la première, et à ne pas nous méprendre. Alors ça a une conséquence, et je nous laisserai devant, parce que si on accepte ça, si on pourra alors être prêt au moins à admettre que c'est possible, voire même on pourra penser, alors je ne sais pas ce que j'ai comme diapo, c'est ça, que d'autres passages qu'Ésaïe 13 dans la Bible fonctionnent comme ça, même si on n'a pas les deux lectures qui se complètent. Des passages qui peuvent utiliser les mêmes images. Et du coup, ça veut dire qu'il est, il peut plaider que c'est possible qu'une certaine part, grosse ou petite, des textes prophétiques, des textes apocalyptiques, même l'ensemble, enfin une grosse part de l'évangile de l'Apocalypse de Jean, viserait non pas forcément des bouleversements célestes, mais des événements d'ordre politique, des événements plus terre à terre, mais avec un langage qui n'est pas le langage que nous emploierions. Et du coup, un certain nombre de lecteurs, en tout cas, et des lecteurs attachés à l'Écriture, sont prêts à penser que une grosse part de l'Apocalypse de Jean, j'y tiens, peut-être ça s'est passé par le passé, pas tout, parce que les derniers chapitres sont un peu à part, donc là il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat sur les derniers chapitres. Donc ça change le regard sur les textes. Ceci étant, vous pourrez me dire, enfin, ou quelques-uns pourraient me dire, d'accord pour Ésaïe 13, d'accord pour Ésaïe 25 peut-être, mais pour d'autres passages, ou pour le livre de l'Apocalypse, ça fonctionne pas comme ça, forcément de la même façon. Et je répondrai en vous disant, oui, je suis d'accord avec vous. Ça fonctionne pas nécessairement de la même façon. Je dis simplement, je peux comprendre qu'il y ait les deux points de vue. Je peux comprendre le point de vue de ceux qui font une lecture très littérale, comme je peux comprendre que d'autres n'aient pas ce point de vue et qu'ils lisent l'Apocalypse en disant « Mais voilà, l'Apocalypse visait la destruction de Jérusalem, par exemple, au 1er siècle. » c'est cet aiguillage que je voulais poser devant vous. Je voulais dire que concrètement, cette diversité, elle est là. Hein. Elle est là dans le monde évangélique. Et j'aime bien dire, alors c'est ma façon de me positionner, ce ne sera pas celle de tout le monde, je pense, mais que j'ai envie de dire des personnes qui sont plus savantes ou qui sont plus attachées au Seigneur que je ne le suis, je constate qu'eh bien, sur ce point-là, comme sur d'autres, ils ne se sont pas mis d'accord entre eux. Alors j'ai envie d'en tirer la conséquence. Eh bien, enfin, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas tellement ça, c'est comment on vit ensemble. Est-ce qu'on peut vivre ensemble, même si on n'aborde pas ces textes-là de la même façon? J'ai envie de dire, essayons de le faire. J'ai envie de dire, ne soyons pas étonnés si certains prennent les textes très à la lettre, et ne soyons pas étonnés aussi si certains ne sont pas prêts à le faire de la même façon. Je peux comprendre ceux qui lisent l'Apocalypse très littéralement, tremblement de terre, tremblement de ciel, et je peux comprendre aussi ceux qui y voient surtout des images poétiques, pas forcément des étoiles qui tombent par terre, par exemple, mais des effondrements d'empires humains. Une bataille finale pour certains à la fin de l'histoire, pour d'autres, quelque chose qui serait plutôt passé dans le passé. Il se trouve qu'en milieu évangélique francophone, dans lequel nous sommes en France, alors pour des raisons surtout historiques, en fait, je pense l'influence de missionnaires américains après la guerre qui sont venus dans le souci d'évangéliser, de réévangéliser un pays qu'ils avaient trouvé bien, bien déchristianisé lorsqu'ils étaient venus après le jour J. Donc, à cause de raisons historiques, c'est surtout une approche très littérale qui est la plus commune et qui est, si je peux employer ce langage, la plus vendue en librairie, c'est-à-dire la plupart des ouvrages qu'on trouvera sera comme ça. Je dis simplement, c'est pas la seule possible, de mon point de vue. Alors, je ne cache pas que j'ai mes préférences. Si vous voulez les connaître, eh bien, vous pouvez discuter avec moi. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas ça qui compte. J'aurais envie de dire, mon prédécesseur en avait peut-être d'autres. Mon successeur en aura peut-être d'autres. Pour ma part, en tout cas, je fais le choix d'accepter qu'il peut y avoir entre nous une diversité. Et de ne pas considérer que ceux qui feraient d'autres choix que les miens, eh bien, ne sont pas chrétiens, ou qu'ils n'auraient rien compris. Je nous invite à accepter qu'entre chrétiens, nous pouvons avoir le même respect pour les textes, et que nous pouvons ne pas être d'accord parfois sur comment comprendre certains textes. Ça vaut pour l'apocalyptique, ça vaut pour d'autres choses aussi. Il y a des points sur lesquels je pense que voilà, c'est pas, je ne transigerai pas. Jésus est ressuscité des morts, c'est pas une image, c'est pas une parabole. Et puis non, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et puis là, pour ce qui concerne la fin de l'histoire, ou là par contre, j'ai envie de laisser cette diversité possible. Et j'y insiste parce qu'historiquement, en fait, peut-être pas trop en France, mais les églises chrétiennes se sont souvent fracturées autour des questions sur la fin, sur l'interprétation de la prophétie. Je n'ai pas envie de contribuer à ça. Par contre, c'est peut-être ça que sur lequel je veux insister, parce que je crois que quel que soit le point de vue auquel on se rattache, l'essentiel dans l'apocalyptique, c'est pas ça. Il y a des choses qui sont dites et que les deux points de vue sont prêts à entendre, et c'est l'accent aussi de ces textes. J'ai envie de mettre en avant ce qui unit tous ces croyants qui sont attachés à l'Écriture et qui a été en fait retenu dans les confessions de foi en général. Et puis en France, ça serait la confession de foi du CNEF. On ne va pas dire dans les confessions de foi du CNEF, il faut lire ces textes de telle façon, non. On dit « je crois que Jésus revient ». Et j'ai envie de m'attacher à ça. Donc je ne sais pas, si je puis dire pour ma part, si ce que décrit l'Apocalypse, c'est tout à venir ou bien c'est en partie passé, je ne sais pas. Mais j'ai envie de retenir surtout ce que tous les lecteurs sont prêts à reconnaître pour les derniers chapitres, la promesse de la venue de Jésus à la fin de l'histoire. La promesse d'une terre, d'un jugement. La promesse d'une terre nouvelle où n'habiteront plus les sanglots, où n'habiteront plus la peine. Voici, je fais toute chose nouvelle. Promesse d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre où la justice habite. Et puis aussi, ces textes-là ne sont pas donnés simplement pour les lire et pour spéculer, et encore moins, je crois, pour se battre les uns avec les autres. Mais ces textes nous sont donnés, ils ne sont pas donnés non plus pour faire des calculs, ils nous sont donnés principalement, et je vais y venir, pour motiver notre vigilance, notre attention. Il y a des bouleversements dans le monde, Willy, au salut, un des textes, je change des yeux, je ne sais pas Willy, pardon. Merci. Mais vous, gardez confiance, levez les yeux. C'est ça, j'ai envie de dire, la conséquence pratique essentielle de ces textes. Alors j'ai envie de nous dire en terminant, dans la lignée d'Ésaïe, mais je reviens à l'Apocalypse, ciel écoute, terre prête l'oreille, chrétiens prêtons l'oreille, tendons l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. Et là, ce qu'il nous dit là, nous avons à l'entendre, que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Et que celui qui est saint continue à se purifier. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Et je termine par un mot de Jésus lui-même dans les évangiles, avant l'Apocalypse. Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillants. Que le Seigneur nous trouve ainsi. Je vous invite à un moment de silence. Jésus, nous prions. Amen.